VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge. Au sommaire ce vendredi 15 mai 2015, crise politico-militaire au Burundi. Les chefs des putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Plusieurs ont été arrêtés par les forces loyales au président Pierre Nkurunziza qui serait rentré au Burundi. La présidence a déclaré que le président saluait l'armée, la police et le peuple burundais. Les forces de sécurité sont à la poursuite des militaires putschistes pour les faire juger. Nous aurons la Minute Éco et les sports, mais d'abord les infos. Nous venons de le dire, les chefs putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Nous avons décidé de nous rendre. J'espère qu'ils ne vont pas nous tuer, a déclaré ce vendredi le général Godefroy Niyombare au téléphone, un journaliste de l'AFP. Selon l'agence, M. Niyombare a fait cette déclaration alors que les loyalistes l'approchaient. Le numéro 2 de la junte, le général Siri Ndiariki, a également reconnu l'échec du coup d'État alors qu'il était arrêté. Plus tôt dans la journée à Washington, Jeff Radke, porte-parole du département d'État, a déclaré que les États-Unis reconnaissaient Pierre Nkurunziza comme président légitime du Burundi et avait appelé toutes les parties à éviter la violence et à respecter les droits humains. Le général Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement burundais limogé le 18 février, avait utilisé les radios privées pour annoncer la destitution du président mercredi. Et le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné la tentative du coup d'État au Burundi. Écoutons le représentant de la France au Conseil, l'ambassadeur François Delattre.
Nous avons eu des consultations très intenses et constructives qui nous ont permis d'entendre la présentation par l'envoyé spécial, M. Djinit, de la situation sur place et qui a permis ensuite aux membres du Conseil de sécurité de marquer leur unité autour d'un message permettant la réduction de la violence, qui est notre première priorité, à tous, unanimement partagé autour de la table du Conseil de sécurité et autour d'un effort de l'ensemble des parties visant à renouer les fils du dialogue et à retrouver un processus politique permettant au Burundi, dans le respect des accords d'Arusha, de sa constitution, de retrouver les chemins du dialogue et de la paix. Nous faisons confiance à M. Djinit, qui continue son effort de médiation avec le plein soutien du Conseil de sécurité. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade.
Le général donc Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement burundais, limogé le 18 février, avait donc utilisé des radios privées pour annoncer la destitution du président mercredi. Et la dégradation de la situation au Burundi a fait hier l'objet d'une réunion d'urgence au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'organisation continentale a appelé au dialogue pour résoudre cette crise politique. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris plusieurs décisions, notamment l'envoi rapide d'observateurs des droits humains au Burundi, a indiqué sa présidente, Madame Diallo Amina Djibo. Toutefois, cette dernière n'a pas précisé le nombre ou la date d'envoi de ces observateurs.
The PSC strongly condemns.
Le Conseil de paix et de sécurité condamne fermement toute tentative de prendre le pouvoir par la force et toute tentative contre la paix. Le Conseil a appelé toutes les parties burundaises à créer de toute urgence un environnement propice au dialogue pour résoudre la crise par des moyens pacifiques et légaux, a déclaré la présidente du Conseil. Sur ce point également, le Conseil de paix et de sécurité n'a pas imposé de délai pour y parvenir, ou préciser ce qu'il ferait si la situation continuait de se détériorer.
Les pays du Sahel en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de migrants vers l'Europe se sont engagés jeudi à intensifier leur coopération en présence du ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. Jean-Roger Bion.
Le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont, dans une déclaration commune dite de Niamey, reconnu que seule une action commune est à même de relever ces défis. En matière d'immigration, les États se sont engagés à prendre des mesures en amont pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes italiennes. Le Sahel est l'une des zones les plus pauvres au monde. Ses 137 millions d'habitants y vivent avec des indices de développement parmi les plus bas. Ces États peinent à juguler les groupes islamistes tels qu'Acmi ou Boko Haram. Les représentants du G5 Sahel, créés l'an dernier pour contrer la menace terroriste, se sont ainsi engagés hier à mettre en place un système de communication informatisé et sécurisé pour échanger des informations. C'est la clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a commenté Bernard Cazeneuve, invité à cette réunion avec son homologue espagnol, Jorge Fernandez Diaz.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama a déclaré que les États-Unis ont pris un engagement à toute épreuve pour la sécurité de leurs alliés du Golfe et envisagé d'utiliser la force militaire s'ils étaient menacés. Monsieur Obama a accueilli jeudi à la retraite présidentielle de Camp David les dirigeants et ministres de haut rang des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Étaient présents notamment le prince et le vice-prince héritier saoudien, les émirs du Koweït et du Qatar, et des hauts fonctionnaires de Bahreïn, d'Oman et des Émirats arabes unis. Monsieur Obama a déclaré que les États-Unis redoubleraient d'efforts pour aider les pays du Golfe à répondre à toutes sortes de menaces. Cela implique des exercices militaires et une assistance de développement de la défense antimissile et des capacités d'intervention rapide. Les États-Unis ont de nouveau exhorté jeudi les pays d'Asie du Sud-Est à sauver des milliers de migrants en perdition en mer au lieu de repousser leurs embarcations. Le porte-parole du département d'État américain Jeffrey Ratke n'a pas caché l'inquiétude de Washington face à cette situation humanitaire désespérée. Des précisions avec Eddie Isango.
Monsieur Ratke a déclaré au lendemain d'une admonestion de l'ambassade des États-Unis à Bangkok que la priorité est de sauver des vies. Selon lui, les ambassadeurs des États-Unis en Asie du Sud-Est étaient en contact avec les Nations Unies et les gouvernements des pays asiatiques qui refusent l'arrivée des migrants sur leurs côtes. Des milliers d'entre eux, venus de Birmanie et de Bangladesh, était jeudi en perdition en mer en Asie du Sud-Est. Les pays de la région, Indonésie et Malaisie notamment, continuent à repousser les bateaux. Près de 2000 personnes, parmi lesquelles de nombreux Rohingyas, minorités musulmanes considérées comme l'une des plus persécutées du monde par l'ONU, sont parvenues jusqu'aux côtes malaisiennes et indonésiennes ces derniers jours. Mais Kuala Lumpur et Jakarta, qui disent craindre un déferlement, refoulent désormais tous les bateaux, condamnant les passagers désespérés à demeurer dans leur prison flottante, selon l'AFP. Les porte-parole du département d'État, qui n'a pas annoncé d'engagement direct des États-Unis dans cette crise, a encore jugé qu'il s'agissait d'un défi régional urgent qui nécessitait d'être réglé de manière régionale.
Le groupe État islamique a publié un message audio qu'il attribue à son chef Abou Bakr al-Baghdadi, qui n'a pas été vu ou entendu depuis des mois. Le message invite les musulmans à prendre les armes pour sa cause et à émigrer au califat qu'il a proclamé dans les régions de la Syrie et de l'Irak. Les agences de presse occidentales n'ont pas été en mesure de confirmer si la voix était réellement celle de Baghdadi. Le premier ministre du Népal affirme que le gouvernement n'était pas préparé au second puissant séisme qui a frappé le pays en début de semaine. Il était inattendu, a déclaré Sushil Koirala jeudi devant la presse à Charikot, dans le nord du pays. L'ensemble de la localité est sous les décombres. Nous nous battons encore maintenant. Le tremblement de terre de magnitude 7,3 de mardi a tué au moins 110 personnes, déclenchant des glissements de terrain et l'effondrement des maisons déjà endommagées. Il a frappé près de 3 semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 8000 morts au Népal. Et la Chambre des représentants américaine a voté massivement un projet de loi donnant au Congrès le droit d'approuver ou de rejeter un accord nucléaire avec l'Iran. Le Sénat a adopté la mesure la semaine dernière. La Maison-Blanche dit que le président Barack Obama, qui avait menacé d'opposer son veto, envisage maintenant de le signer. Le projet de loi donne au Congrès 30 jours pour examiner un accord sur le nucléaire entre l'Iran, les États-Unis et 5 autres grandes puissances mondiales. Pendant ces 30 jours, M. Obama ne peut pas lever les sanctions américaines contre l'Iran. L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco vous est présentée par Camille Gros-Didier.
En Guinée, la société Louis Berger va appuyer la remise en état d'une route majeure. Il s'agit de la route nationale 1 qui pourra être prolongée à l'avenir vers le sud-est du Mali. Ce contrat est le fruit de notre volonté d'établir un partenariat fort avec le ministre guinéen des Travaux publics et reflète notre expérience de plus de 25 ans dans le pays, a indiqué Pascal Oudot, directeur général adjoint aux opérations pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui est cité dans un communiqué. But de l'opération, stimuler le commerce national et international en reliant des axes de transport stratégiques et en développant les infrastructures de transport du pays. Et puis au terme de sa visite en République démocratique du Congo, la directrice générale de la Banque mondiale a salué les réalisations du gouvernement, mais elle a estimé que le pays est confronté à des défis dans les secteurs du social et de l'économie. Il s'agit notamment pour le gouvernement Kabila de consacrer davantage à la santé et l'éducation. À Kinshasa et à Goma, Madame Sri Mulyani Indrawati a noté que la réforme des entreprises publiques permettrait de mieux développer l'économie et de créer des richesses tout en réduisant la pauvreté. Analysant la croissance, elle a fait remarquer que celle-ci est essentiellement tirée par le secteur minier et que la diversification de l'économie pourrait briser la dépendance vis-à-vis des activités minières. Et à ce sujet, elle s'est félicitée que le gouvernement cherche à étendre les parcs agro-industriels pour porter leur nombre de 22 à 26. Madame Sri Mulyani Indrawati a également évoqué la nécessité de réformes pour lutter plus vigoureusement contre la corruption.
Merci Camille pour la Minute Éco. À présent les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
La Gambie a un nouvel entraîneur.
Oui, le Suisse Raoul Savoie a été officiellement désigné ce jeudi sélectionneur des Scorpions, passé dernièrement à la tête des Fauves du Bazoubangui de Centrafrique fin 2014. Raoul Savoie reprend donc du service en Afrique. Le technicien suisse de 41 ans, ancien coach du FC Sion, aura pour mission de qualifier les Scorpions pour la CAN 2017. Il faudra pour cela sortir d'un groupe éliminatoire comportant également le Cameroun, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Premier adversaire avant cette rencontre face au Bafana Bafana, Savoie et ses hommes seront rassemblés en Ouganda.
En boxe, le combat du siècle qui a eu lieu il y a quelques semaines semble tenir toutes ses promesses, du moins sur le plan financier.
Oui, ce combat entre le Philippin Manu Pacquiao et l'Américain Floyd Mayweather devrait générer au final plus de 500 millions de dollars de recettes, estimation faite par les organisateurs selon les chiffres publiés mardi par les diffuseurs du combat, HBO et Showtime. Notamment, la victoire de Mayweather a généré 4,4 millions d'achats à la séance, soit des recettes de plus de 400 millions de dollars pour le marché américain uniquement. Le combat qui a permis à Mayweather le 2 mai de rester invaincu, 48 victoires sur 48, est entré comme attendu dans l'histoire de la télévision.
Du tennis à présent, les Masters de Rome.
Oui, le Suisse Roger Federer, numéro 3 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson, battu 6-3, 7-5. Au prochain tour, Federer affrontera le Tchèque Thomas Berdych ou l'Italien Fabio Fognini. Et pour terminer, les play-offs de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, hier soir dans l'Illinois, Chicago a perdu à domicile face à Cleveland, 73 à 94. L'autre match de la soirée, les Clippers ont perdu à Los Angeles contre Houston Rockets, 107 à 119.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Crise politico-militaire au Burundi. Les chefs des putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Plusieurs ont été arrêtés par les forces loyales au président Pierre Nkurunziza qui serait rentré au Burundi. La présidence a déclaré que le président saluait l'armée, la police et le peuple burundais. Les forces de sécurité sont à la poursuite des militaires putschistes pour les faire juger. J'ai joint ce matin à Bujumbura Léon Massengo de Radio Bonécha.
Oui, ce vendredi matin, il a été entendu des coups de feu vers le sud de la capitale Bujumbura. Il s'agissait des derniers éléments des putschistes qui allaient être arrêtés. Et effectivement, trois chefs du comité de la Concorde nationale des putschistes qui venaient d'être arrêtés. La nuit avait été calme. Et ce n'est que dans ce matin de vendredi, qu'on a pu entendre beaucoup de coups de feu de ces derniers éléments des putschistes.
Est-ce que le général Niyombare a été arrêté?
Le général Niyombare a été arrêté vers 8 heures. On parlait au téléphone et son téléphone a été coupé brutalement. Et nous avons appris qu'il venait d'être arrêté après... Le numéro 2, le général Cyril Ndayirukiye, qui avait été arrêté, lui, vers le sud de la capitale, dans un quartier appelé Kivenga.
Est-ce que l'on sait où ils sont actuellement?
On ne sait pas où ils sont pour le moment, mais ils devraient se retrouver dans des cachots de militaires ou surtout, ou peut-être aussi, ou peut-être au service national de renseignement, parce que c'est d'habitude des personnes arrêtées, accusées d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, par exemple, sont conduites souvent dans les cachots du Service national de renseignement. Mais comme ce sont des militaires, ils ont probablement été conduits dans des cachots militaires.
Alors, est-ce qu'il y a encore des résistances ou est-ce que vraiment ils ont annoncé la reddition?
Vraiment pas de résistance. On a entendu les derniers tirs et il n'y a pas de résistance. Et après la défaite autour de la Radio-Télévision nationale du Burundi, ils se sont rendus, ils ont reconnu que les loyalistes étaient plus forts qu'eux. Et c'est ce matin qu'ils ont manifestement montré qu'ils renonçaient à ce plan de coup d'État.
Est-ce qu'il y a eu des victimes?
Des victimes, officiellement, on sait, enfin, des sources militaires que j'ai approchées m'ont dit qu'il y avait eu 3 morts, 3 militaires tués, il y a eu beaucoup de blessés. On ne connaît pas vraiment exactement le nombre, mais on sait que au cours de ces combats autour de la Radio-Télévision nationale, il y a eu 3 morts, 3 militaires du côté des putschistes.
Est-ce que la plupart se rendent ou est-ce qu'il y en a qui sont en fuite, hein?
Oui, il y en a qui se sont rendus, d'autres qui, on ne connaît pas où ils sont. La plupart de ces militaires qui avaient rejoint le général Niyombare venaient de l'intérieur du pays, des camps militaires de l'intérieur du pays. Ils sont probablement retournés là-bas et d'autres, on ne connaît pas où ils sont pour le moment.
Est-ce que le président Pierre Nkurunziza est actuellement au Burundi, hein?
Selon son chargé de la communication, le conseiller principal, Willy Nyamitwe, il serait au Burundi. Il ne veut pas dire où exactement, mais en tout cas, dans les heures à venir, le président Pierre Nkurunziza devrait prononcer un discours à la Radio-Télévision nationale du Burundi. Et quand il arrivera, on le verra certainement sur les écrans de la télévision nationale. Et il devrait prononcer un discours d'apaisement.
Est-ce que certains officiels se sont prononcés, hein?
Non, des officiels ne se sont pas encore prononcés. Le chef d'état-major qui était dans les enceintes de la Radio-Télévision nationale n'est pas encore sorti. Et on attend qu'il dise aussi quelque chose sur ces affrontements qui ont eu lieu ou sur la victoire de ces hommes loyalistes face aux putschistes.
Mais comment pouvez-vous décrire les rues de Bujumbura à l'heure où nous parlons? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des gens dans la rue ou pas?
Alors, je vous l'avais dit, la nuit avait été très calme. Le matin, c'est aussi calme. Très peu de mouvements dans les rues de la capitale de Bujumbura. Et les gens ne sont pas encore rassurés. Ils préfèrent rester dans leur maison. C'est qu'ils sortent, se retrouvent dans de petits groupes autour des axes principaux pour échanger. Et ils ne sont pas encore vraiment rassurés. Ils se posent des questions par rapport à ce qui va suivre, par rapport à la répression des putschistes d'abord et de tous ceux qui étaient descendus dans la rue pour soutenir ce mouvement des putschistes.
Alors, vous êtes de la radio Bonéchin. Est-ce que vous pouvez diffuser à l'heure actuelle?
Non, la radio Bonéchin ne diffuse pas comme toutes les autres radios indépendantes. Le matériel a été détruit dans des explosions de grenades et d'autres explosifs. C'était hier. Et toutes les radios, les radios privées n'émettent plus. C'est la radio RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi, qui émet pour le moment. Et les gens ont peur, effectivement, parce qu'ils n'ont qu'un seul médium qu'ils écoutent.
Mais est-ce que vous-même, les radios privées, vous vous sentez encore menacé aujourd'hui?
Encore menacé parce que même les responsables de ces médias n'ont pas pu encore aller voir ce qui s'est passé. Les radios sont toujours ceinturées par des policiers et des militaires. Et vraiment, on se demande, enfin, les responsables, ces responsables des médias se demandent ce que sont devenus leurs organes de presse.
Est-ce que le fait que le général ait effectué son annonce sur des radios privées risque de vous nuire, de nuire aux radios privées?
C'est cela qui a fait que ces médias ont été la cible des militaires loyalistes et des policiers qui sont venus très furieux parce que, effectivement, le général Godefroy Niyombare avait fait diffuser son message de prise du pouvoir sur les médias, sur les médias privés comme Isanganiro, Bonécha et RPA et Renaissance. C'est cela qui avait vraiment fait que les loyalistes étaient plutôt plus furieux. Ils sont venus détruire toutes ces radios en pleine journée.
Notre confrère Léon Massengo de Radio Bonécha à Bujumbura. République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies affirme que les rebelles islamistes ADF Nalu, à dominante ougandaise, sont les principaux responsables des exécutions sommaires d'au moins 237 civils à Beni, dans l'est de la RDC, entre octobre et décembre de l'année dernière. Nick Long, le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, a recueilli les témoignages de certains survivants. Son reportage est présenté ici par Jacques Aristide.
Ils se considèrent comme des miraculés car ils ont pu échapper à la mort, à l'image de ce jeune homme qui se remet de ses blessures à la machette. Il dit être convaincu que les assaillants appartiennent aux ADF parce que certains d'entre eux, ajoute-t-il, étaient des enfants et parlaient une langue qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Kambale Katsinda est un autre survivant. Une balle lui a été tirée dans le pied, mais il a quand même pu s'enfuir. Lui aussi montre du doigt le groupe rebelle ADF. Kambale affirme avoir été pris en embuscade, des hommes l'entouraient, ajoute-t-il, et lui pointaient leurs armes, la plupart armées de machettes. Il dit avoir survécu grâce à l'armée congolaise qui se trouvait à quelques centaines de mètres. Entre octobre et janvier dernier, des enquêteurs de l'ONU avaient été dépêchés dans la région, visitent des lieux où les massacres ont été perpétrés et rencontrent avec 180 témoins. Le chef du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, José Maria Ranaz.
Les conclusions principales du rapport, c'est les exécutions sommaires au moins de 235 personnes de manière systématique, planifiée avec les buts prémédités par les ADF.
Les enquêteurs ont également entendu des allégations selon lesquelles des citoyens ordinaires et certaines autorités dans le territoire de Beni ont aidé les ADF dans leurs attaques, notamment en matière d'information et de logistique.
Il faut aussi remarquer qu'au moins il y avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises dans le cadre des massacres et au moins 33 militaires de l'FRDC dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Le ministre congolais de l'information a également condamné ces attaques. D'après Lambert Mende, les ADF ont tué de nombreux enfants et femmes en souvent découpant leurs victimes en morceaux. L'armée congolaise poursuit ses opérations en pénétrant dans la forêt où le numéro 3 des ADF a été tué le 20 avril dernier. Lambert Mende a confirmé l'arrestation de nombreux habitants de Beni, y compris des soldats dont certains ont déjà été jugés et condamnés. Après l'arrestation du chef des ADF, Jamil Mukulu, en Tanzanie, le gouvernement congolais a demandé son extradition pour qu'il réponde de ses crimes en RDC, que Kinshasa considère pire que ceux qu'il a commis en Ouganda.
Salut les amis, votre gars Roger Montou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce vendredi, nous allons écouter de la bonne Island Music, la musique des îles, salsa, merengue, zouk, reggaeton. On sera ensemble, on continue avec notre sujet de cette semaine. Ne ratez pas votre émission préférée, les amis. Appelez-nous au 001-202-619-3140. Je répète ce numéro, 001-202-619-3140. Je vous promets qu'aujourd'hui, vendredi, ça sera le show dans RM Show. Ne ratez pas, c'est la chaleur. L'avion va décoller. Vos messages sur notre groupe Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Y que ahora estás tú, hablando de amar, hablando de amar.
Él sabe inicial que amar es cifra, pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética y no puedo ser tu sentido. Le temo a que tu cupido me venda un sueño y falle de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Elle était donc présentée par Nathalie Barge. À la mise en onde, c'était Anne Albertson. À la console, John Ellison. Donc, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous.
cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge. Au sommaire ce vendredi 15 mai 2015, crise politico-militaire au Burundi. Les chefs des putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Plusieurs ont été arrêtés par les forces loyales au président Pierre Nkurunziza qui serait rentré au Burundi. La présidence a déclaré que le président saluait l'armée, la police et le peuple burundais. Les forces de sécurité sont à la poursuite des militaires putschistes pour les faire juger. Nous aurons la Minute Éco et les sports, mais d'abord les infos. Nous venons de le dire, les chefs putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Nous avons décidé de nous rendre. J'espère qu'ils ne vont pas nous tuer, a déclaré ce vendredi le général Godefroy Niyombare au téléphone à un journaliste de l'AFP. Selon l'agence, M. Niyombare a fait cette déclaration alors que les loyalistes l'approchaient. Le numéro 2 de la junte, le général Cyril Ndiariki, a également reconnu l'échec du coup d'État alors qu'il était arrêté. Plus tôt dans la journée à Washington, Jeff Radke, porte-parole du département d'État, a déclaré que les États-Unis reconnaissaient Pierre Nkurunziza comme président légitime du Burundi et avaient appelé toutes les parties à éviter la violence et à respecter les droits humains. Le général Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement burundais limogé le 18 février, avait utilisé les radios privées pour annoncer la destitution du président mercredi. Et le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné la tentative du coup d'État au Burundi. Écoutons le représentant de la France au Conseil, l'ambassadeur François Delattre.
Nous avons eu des consultations très intenses et constructives qui nous ont permis d'entendre la présentation par l'envoyé spécial, M. Djinit, de la situation sur place et qui a permis ensuite aux membres du Conseil de sécurité de marquer leur unité autour d'un message permettant la réduction de la violence, qui est notre première priorité, à tous, unanimement partagé autour de la table du Conseil de sécurité et autour d'un effort de l'ensemble des parties visant à renouer les fils du dialogue et à retrouver un processus politique permettant au Burundi, dans le respect des accords d'Arusha, de sa constitution, de retrouver les chemins du dialogue et de la paix. Nous faisons confiance à M. Djinit, qui continue son effort de médiation avec le plein soutien du Conseil de sécurité. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade.
Le général donc Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement burundais, limogé le 18 février, avait donc utilisé des radios privées pour annoncer la destitution du président mercredi. Et la dégradation de la situation au Burundi a fait hier l'objet d'une réunion d'urgence au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'organisation continentale a appelé au dialogue pour résoudre cette crise politique. Les précisions de Timothée Donormay.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris plusieurs décisions, notamment l'envoi rapide d'observateurs des droits humains au Burundi, a indiqué sa présidente, Madame Diallo Amina Djibo. Toutefois, cette dernière n'a pas précisé le nombre ou la date d'envoi de ces observateurs.
The PSC strongly condemn.
Le Conseil de paix et de sécurité condamne fermement toute tentative de prendre le pouvoir par la force et toute tentative contre la paix. Le Conseil a appelé toutes les parties burundaises à créer de toute urgence un environnement propice au dialogue pour résoudre la crise par des moyens pacifiques et légaux, a déclaré la présidente du Conseil. Sur ce point également, le Conseil de paix et de sécurité n'a pas imposé de délai pour y parvenir ou préciser ce qu'il ferait si la situation continuait de se détériorer.
Les pays du Sahel en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de migrants vers l'Europe se sont engagés jeudi à intensifier leur coopération en présence du ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. Jean-Roger Bion.
Le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont, dans une déclaration commune dite de Niamey, reconnu que seule une action commune est à même de relever ces défis. En matière d'immigration, les États se sont engagés à prendre des mesures en amont pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes italiennes. Le Sahel est l'une des zones les plus pauvres au monde. Ses 137 millions d'habitants y vivent avec des indices de développement parmi les plus bas. Ces États peinent à juguler les groupes islamistes tels qu'Acmi ou Boko Haram. Les représentants du G5 Sahel, créés l'an dernier pour contrer la menace terroriste, se sont ainsi engagés hier à mettre en place un système de communication informatisé et sécurisé pour échanger des informations. C'est la clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a commenté Bernard Cazeneuve, invité à cette réunion avec son homologue espagnol, Jorge Fernandez Diaz.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama a déclaré que les États-Unis ont pris un engagement à toute épreuve pour la sécurité de leurs alliés du Golfe et envisagé d'utiliser la force militaire s'ils étaient menacés. Monsieur Obama a accueilli jeudi à la retraite présidentielle de Camp David les dirigeants et ministres de haut rang des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Étaient présents notamment le prince et le vice-prince héritier saoudien, les émirs du Koweït et du Qatar, et des hauts fonctionnaires de Bahreïn, d'Oman et des Émirats arabes unis. Monsieur Obama a déclaré que les États-Unis redoubleraient d'efforts pour aider les pays du Golfe à répondre à toutes sortes de menaces. Cela implique des exercices militaires et une assistance de développement de la défense antimissile et des capacités d'intervention rapide. Les États-Unis ont de nouveau exhorté jeudi les pays d'Asie du Sud-Est à sauver des milliers de migrants en perdition en mer au lieu de repousser leurs embarcations. Le porte-parole du département d'État américain Jeffrey Radke n'a pas caché l'inquiétude de Washington face à cette situation humanitaire désespérée. Des précisions avec Eddie Isango.
Monsieur Radke a déclaré au lendemain d'une admonestation de l'ambassade des États-Unis à Bangkok que la priorité est de sauver des vies. Selon lui, les ambassadeurs des États-Unis en Asie du Sud-Est étaient en contact avec les Nations Unies et les gouvernements des pays asiatiques qui refusent l'arrivée des migrants sur leurs côtes. Des milliers d'entre eux, venus de Birmanie et de Bangladesh, étaient jeudi en perdition en mer en Asie du Sud-Est. Les pays de la région, Indonésie et Malaisie notamment, continuent à repousser les bateaux. Près de 2000 personnes, parmi lesquelles de nombreux Rohingyas, minorités musulmanes considérées comme l'une des plus persécutées du monde par l'ONU, sont parvenues jusqu'aux côtes malaisiennes et indonésiennes ces derniers jours. Mais Kuala Lumpur et Jakarta, qui disent craindre un déferlement, refoulent désormais tous les bateaux, condamnant les passagers désespérés à demeurer dans leur prison flottante, selon l'AFP. Les porte-parole du département d'État, qui n'a pas annoncé d'engagement direct des États-Unis dans cette crise, a encore jugé qu'il s'agissait d'un défi régional urgent qui nécessitait d'être réglé de manière régionale.
Le groupe État islamique a publié un message audio qu'il attribue à son chef Abu Bakr al-Baghdadi, qui n'a pas été vu ou entendu depuis des mois. Le message invite les musulmans à prendre les armes pour sa cause et à émigrer au califat qu'il a proclamé dans les régions de la Syrie et de l'Irak. Les agences de presse occidentales n'ont pas été en mesure de confirmer si la voix était réellement celle de Baghdadi. Le premier ministre du Népal affirme que le gouvernement n'était pas préparé au second puissant séisme qui a frappé le pays en début de semaine. Il était inattendu, a déclaré Sushil Koirala jeudi devant la presse à Charikot, dans le nord du pays. L'ensemble de la localité est sous les décombres. Nous nous battons encore maintenant. Le tremblement de terre de magnitude 7,3 de mardi a tué au moins 110 personnes, déclenchant des glissements de terrain et l'effondrement des maisons déjà endommagées. Il a frappé près de 3 semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 8000 morts au Népal. Et la Chambre des représentants américaine a voté massivement un projet de loi donnant au Congrès le droit d'approuver ou de rejeter un accord nucléaire avec l'Iran. Le Sénat a adopté la mesure la semaine dernière. La Maison-Blanche dit que le président Barack Obama, qui avait menacé d'opposer son veto, envisage maintenant de le signer. Le projet de loi donne au Congrès 30 jours pour examiner un accord sur le nucléaire entre l'Iran, les États-Unis et 5 autres grandes puissances mondiales. Pendant ces 30 jours, M. Obama ne peut pas lever les sanctions américaines contre l'Iran. L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco vous est présentée par Camille Gros-Didier.
En Guinée, la société Louis Berger va appuyer la remise en état d'une route majeure. Il s'agit de la route nationale 1 qui pourra être prolongée à l'avenir vers le sud-est du Mali. Ce contrat est le fruit de notre volonté d'établir un partenariat fort avec le ministre guinéen des Travaux publics et reflète notre expérience de plus de 25 ans dans le pays, a indiqué Pascal Oudot, directeur général adjoint aux opérations pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui est cité dans un communiqué. But de l'opération, stimuler le commerce national et international en reliant des axes de transport stratégiques et en développant les infrastructures de transport du pays. Et puis au terme de sa visite en République démocratique du Congo, la directrice générale de la Banque mondiale a salué les réalisations du gouvernement, mais elle a estimé que le pays est confronté à des défis dans les secteurs du social et de l'économie. Il s'agit notamment pour le gouvernement Kabila de consacrer davantage à la santé et l'éducation. À Kinshasa et à Goma, Madame Sri Mulyani Indrawati a noté que la réforme des entreprises publiques permettrait de mieux développer l'économie et de créer des richesses tout en réduisant la pauvreté. Analysant la croissance, elle a fait remarquer que celle-ci est essentiellement tirée par le secteur minier et que la diversification de l'économie pourrait briser la dépendance vis-à-vis des activités minières. Et à ce sujet, elle s'est félicitée que le gouvernement cherche à étendre les parcs agro-industriels pour porter leur nombre de 22 à 26. Madame Sri Mulyani Indrawati a également évoqué la nécessité de réformes pour lutter plus vigoureusement contre la corruption.
Merci Camille pour la Minute Éco. À présent les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
La Gambie a un nouvel entraîneur.
Oui, le Suisse Raoul Savoie a été officiellement désigné ce jeudi sélectionneur des Scorpions, passé dernièrement à la tête des Fauves du Bazoubangui de Centrafrique fin 2014. Raoul Savoie reprend donc du service en Afrique. Le technicien suisse de 41 ans, ancien coach du FC Sion, aura pour mission de qualifier les Scorpions pour la CAN 2017. Il faudra pour cela sortir d'un groupe éliminatoire comportant également le Cameroun, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Premier adversaire avant cette rencontre face au Bafana Bafana, Savoie et ses hommes seront rassemblés en Ouganda.
En boxe, le combat du siècle qui a eu lieu il y a quelques semaines semble tenir toutes ses promesses, du moins sur le plan financier.
Oui, ce combat entre le Philippin Manu Pacquiao et l'Américain Floyd Mayweather devrait générer au final plus de 500 millions de dollars de recettes, estimation faite par les organisateurs selon les chiffres publiés mardi par les diffuseurs du combat, HBO et Showtime. Notamment, la victoire de Mayweather a généré 4,4 millions d'achats à la séance, soit des recettes de plus de 400 millions de dollars pour le marché américain uniquement. Le combat qui a permis à Mayweather le 2 mai de rester invaincu, 48 victoires sur 48, est entré comme attendu dans l'histoire de la télévision.
Du tennis à présent, les Masters de Rome.
Oui, le Suisse Roger Federer, numéro 3 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson, battu 6-3, 7-5. Au prochain tour, Federer affrontera le Tchèque Thomas Berdych ou l'Italien Fabio Fognini. Et pour terminer, les play-offs de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, hier soir dans l'Illinois, Chicago a perdu à domicile face à Cleveland de 73 à 94. L'autre match de la soirée, les Clippers sont perdus à Los Angeles contre Houston Rockets, 107 à 119.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Crise politico-militaire au Burundi. Les chefs des putschistes burundais ont reconnu leur échec ce matin. Plusieurs ont été arrêtés par les forces loyales au président Pierre Nkurunziza qui serait rentré au Burundi. La présidence a déclaré que le président saluait l'armée, la police et le peuple burundais. Les forces de sécurité sont à la poursuite des militaires putschistes pour les faire juger. J'ai joint ce matin à Bujumbura Léon Massengo de Radio Bonécha.
Oui, ce vendredi matin, il a été entendu des coups de feu vers le sud de la capitale Bujumbura. Il s'agissait des derniers éléments des putschistes qui allaient être arrêtés. Et effectivement, trois chefs du comité de la concorde nationale des putschistes qui venaient d'être arrêtés. La nuit avait été calme. Et ce n'est que dans ce matin de vendredi, qu'on a pu entendre beaucoup de coups de feu de ces derniers éléments des putschistes.
Est-ce que le général Niyombare a été arrêté?
Le général Niyombare a été arrêté vers 8 heures. On parlait au téléphone et son téléphone a été coupé brutalement. Et nous avons appris qu'il venait d'être arrêté après le numéro 2, le général Cyril Ndayirukiye, qui avait été arrêté, lui, vers le sud de la capitale, dans un quartier appelé Kiwenga.
Est-ce que l'on sait où ils sont actuellement?
On ne sait pas où ils sont pour le moment, mais ils devraient se retrouver dans des cachots de militaires ou peut-être au service national de renseignement, parce que c'est d'habitude des personnes arrêtées, accusées d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, par exemple, sont conduites souvent dans les cachots du service national de renseignement. Mais comme ce sont des militaires, ils ont probablement été conduits dans des cachots militaires.
Alors, est-ce qu'il y a encore des résistances ou est-ce que vraiment ils ont annoncé la reddition?
Vraiment pas de résistance. On a entendu les derniers tirs et il n'y a pas de résistance. Et après la défaite autour de la Radio-Télévision nationale du Burundi, ils se sont rendus, ils ont reconnu que les loyalistes étaient plus forts qu'eux. Et c'est ce matin qu'ils ont manifestement montré qu'ils renonçaient à ce plan de coup d'État.
Est-ce qu'il y a eu des victimes?
Des victimes, officiellement, on sait, enfin, des sources militaires que j'ai approchées m'ont dit qu'il y avait eu trois militaires tués, il y a eu beaucoup de blessés. On ne connaît pas vraiment exactement le nombre, mais on sait que au cours de ces combats autour de la Radio-Télévision nationale du Burundi, il y a eu trois militaires du côté des putschistes.
Est-ce que la plupart se rendent ou est-ce qu'il y en a qui sont en fuite, hein?
Oui, il y en a qui se sont rendus, d'autres qui, on ne connaît pas où ils sont. La plupart de ces militaires qui avaient rejoint le général Niyombare venaient de l'intérieur du pays, des camps militaires de l'intérieur du pays. Ils sont probablement retournés là-bas et d'autres, on ne connaît pas où ils sont pour le moment.
Est-ce que le président Pierre Nkurunziza est actuellement au Burundi, hein?
Selon son chargé de la communication, le conseiller principal, Willy Nyamitwe, il serait au Burundi. Il ne veut pas dire où exactement, mais en tout cas, dans les heures à venir, le président Pierre Nkurunziza devrait prononcer un discours à la Radio-Télévision nationale du Burundi. Et quand il arrivera, on le verra certainement sur les écrans de la télévision nationale. Et il devrait prononcer un discours d'apaisement.
Est-ce que certains officiels se sont prononcés?
Non, des officiers ne se sont pas encore prononcés. C'est l'état-major qui était dans les enceintes de la Radio-Télévision nationale n'est pas encore sorti. Et on attend qu'il dise aussi quelque chose sur ces affrontements qui ont eu lieu ou sur la victoire de ces hommes loyalistes face aux putschistes.
Mais comment pouvez-vous décrire les rues de Bujumbura à l'heure où nous parlons? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des gens dans la rue ou pas?
Alors, je vous l'avais dit, la nuit avait été très calme. Le matin, c'est aussi calme. Très peu de mouvements dans les rues de la capitale de Bujumbura. Et les gens ne sont pas encore rassurés. Ils préfèrent rester dans leur maison. C'est qu'ils sortent, se retrouvent dans de petits groupes autour des axes principaux pour échanger. Et ils ne sont pas encore vraiment rassurés. Ils se posent des questions par rapport à ce qui va suivre, par rapport à la répression des putschistes d'abord et de tous ceux qui étaient descendus dans la rue pour soutenir ce mouvement des putschistes.
Alors, vous êtes de la radio Bonéchin. Est-ce que vous pouvez diffuser à l'heure actuelle?
Non, la radio Bonéchin ne diffuse pas comme toutes les autres radios indépendantes. Le matériel a été détruit dans des explosions de grenades et d'autres explosifs. C'était hier. Et toutes les radios, les radios privées n'émettent plus. C'est la radio RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi, qui émet pour le moment. Et les gens ont peur, effectivement, parce qu'ils n'ont qu'un seul médium qu'ils écoutent.
Mais est-ce que vous-même, les radios privées, vous vous sentez encore menacé aujourd'hui?
Encore menacé parce que même les responsables de ces médias n'ont pas pu encore aller voir ce qui s'est passé. Les radios sont toujours ceinturées par des policiers et des militaires. Et vraiment, on se demande, enfin, les responsables, ces responsables des médias se demandent ce que sont devenus leurs organes de presse.
Est-ce que le fait que le général ait effectué son annonce sur des radios privées risque de vous nuire, de nuire aux radios privées?
C'est cela qui a fait que ces médias ont été la cible des militaires loyalistes et des policiers qui sont venus très furieux parce que, effectivement, le général Godefroy Niyombare avait fait diffuser son message de prise du pouvoir sur les médias, sur les médias privés comme Isanganiro, Rema, comme Isanganiro, Bonécha et RPA et Renaissance. C'est cela qui avait vraiment fait que les loyalistes étaient plutôt plus furieux. Ils sont venus détruire toutes ces radios en pleine journée.
Notre confrère Léon Massengo de Radio Bonécha à Bujumbura. République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies affirme que les rebelles islamistes ADF Nalu, à dominante ougandaise, sont les principaux responsables des exécutions sommaires d'au moins 237 civils à Beni, dans l'est de la RDC, entre octobre et décembre de l'année dernière. Nick Long, le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, a recueilli les témoignages de certains survivants. Son reportage est présenté ici par Jacques Aristide.
Ils se considèrent comme des miraculés car ils ont pu échapper à la mort, à l'image de ce jeune homme qui se remet de ses blessures à la machette. Il dit être convaincu que les assaillants appartiennent aux ADF parce que certains d'entre eux, ajoute-t-il, étaient des enfants et parlaient une langue qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Kambale Katinda est un autre survivant. Une balle lui a été tirée dans le pied, mais il a quand même pu s'enfuir. Lui aussi montre du doigt le groupe rebelle ADF. Kambale affirme avoir été pris en embuscade, des hommes l'entouraient, ajoute-t-il, et lui pointaient leurs armes, la plupart armées de machettes. Il dit avoir survécu grâce à l'armée congolaise qui se trouvait à quelques centaines de mètres. Entre octobre et janvier dernier, des enquêteurs de l'ONU avaient été dépêchés dans la région, visitent des lieux où les massacres ont été perpétrés et rencontrent avec 180 témoins. le chef du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, José María Ranaz.
Les conclusions principales du rapport, c'est les exécutions sommaires au moins de 235 personnes de manière systématique, planifiée avec les buts prémédités par les ADF.
Les enquêteurs ont également entendu des allégations selon lesquelles des citoyens ordinaires et certaines autorités dans le territoire de Béni ont aidé les ADF dans leurs attaques, notamment en matière d'information et de logistique.
Il faut aussi remarquer qu'au moins il y avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises dans le cadre des massacres et au moins 33 militaires de l'FRDC dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Le ministre congolais de l'information a également condamné ces attaques. D'après Lambert Mende, les ADF ont tué de nombreux enfants et femmes en souvent découpant leurs victimes en morceaux. L'armée congolaise poursuit ses opérations en pénétrant dans la forêt où le numéro 3 des ADF a été tué le 20 avril dernier. Lambert Mende a confirmé l'arrestation de nombreux habitants de Béni, y compris des soldats, dont certains ont déjà été jugés et condamnés. Après l'arrestation du chef des ADF, Djamil Mukulu, en Tanzanie, le gouvernement congolais a demandé son extradition pour qu'il réponde de ses crimes en RDC, que Kinshasa considère pire que ceux qu'il a commis en Ouganda.
Salut les amis, votre gars Roger Moutou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce vendredi, nous allons écouter de la bonne Island Music, la musique des îles, salsa, merengue, zouk, reggaeton. On sera ensemble, on continue avec notre sujet de cette semaine. Ne ratez pas votre émission préférée, les amis. Appelez-nous au 001-202-619-3140. Je répète ce numéro, 001-202-619-3140. Je vous promets qu'aujourd'hui, vendredi, ça sera le show dans RM Show. Ne ratez pas, c'est la chaleur. L'avion va décoller. Vos messages sur notre groupe Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de notre émission. Elle était donc présentée par Nathalie Barge. À la mise en onde, c'était Anne Albertson. À la console, John Ellison. Donc, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous.